ça vous dit d'aller boire un verre?
Non, on écoute, vous êtes libre ce soir.
Bonjour et bienvenue sur une nouvelle émission de Vous êtes libre ce soir sur Radio Béton 93.6. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture des données publiques. C'est vrai déjà que les organismes publics, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales, produisent tout un ensemble de données, par exemple sur le tracé des routes, sur des aménagements qui sont faits sur la voirie, sur le nombre de personnes qui sont allées voter lors de telle ou telle élection. Et c'est du travail qui est financé par nos impôts. Ce sont des informations qui peuvent servir parfois au pouvoir public, mais c'est aussi des données qui ne sont utilisées que par les pouvoirs publics, même si on les a payées, et dont les pouvoirs publics souvent ne font pas grand-chose. Il y a une tendance depuis quelques années qui consiste à ce que les pouvoirs publics se mettent à ouvrir leurs données, à les rendre disponibles au plus grand nombre et aussi à donner l'occasion à chacun de pouvoir utiliser ces données dans n'importe quel contexte et pour n'importe quel but. C'est une tendance assez lourde dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne, où à chaque fois le gouvernement a ouvert un dépôt sur Internet où il offrait différents jeux de données. C'était assez divers et varié, mais en tout cas, le gouvernement donnait certains chiffres, certaines statistiques, certaines données, et expliquait quelle était leur signification, comment les réutiliser. Le mouvement des données ouvertes commence aussi à s'affirmer en France. On peut dire qu'il y a certaines collectivités, dont on va parler un peu plus tard, qui se mettent à ouvrir leurs données, et on ne peut que les en féliciter. Mais d'abord, vous me direz, pourquoi ouvrir les données publiques? Eh bien, tout simplement parce que les organismes publics en font un certain usage, mais que nous, en tant que citoyens, on pourrait en faire bien des choses. D'abord, ça fournit à des gens qui font du militantisme politique des arguments pour se rendre compte du fonctionnement par exemple des organismes publics, pour voir, ça peut permettre parfois de voir si ces organismes font bien leur travail. Ça peut servir aussi à créer pas mal d'applications innovantes. Par exemple, on va parler des données de transport public sur Rennes, qui ont permis de créer pas mal d'applications qui sont assez intéressantes, somme toute. Et puis, autre raison, c'est que les données publiques sont collectées grâce à des agents des collectivités territoriales et aussi de l'État, des fonctionnaires autrement dit, et que tout ce travail-là est financé par nos impôts. Donc, quitte à payer pour que des données soient collectées, autant qu'on n'ait pas à les repayer une deuxième fois, plutôt qu'au contraire, on puisse en disposer gratuitement, sachant qu'on les a déjà payées. Faut savoir que pour le mouvement d'ouverture des données publiques, il y a certains freins. Il y a déjà que les collectivités sont hésitantes à montrer le résultat de leur collecte de données. Par exemple, imaginons que la mairie soit chargée de maintenir toute une liste des bornes de recyclage dans Tours. Si on se rend compte que la liste publiée par la mairie est complètement incomplète, ou qu'en fait cette liste contient des bornes qui n'existent plus ou qui sont mal situées, on se dira, tiens, les gens-là, ils font mal leur travail, c'est mal. Et c'est pour ça que certains sont assez réticents de voir le résultat de leur travail publié et critiquable par n'importe qui. Il y a déjà de ça. Il y a aussi, chez certains, en tout cas, les organismes publics, par exemple l'IGN, qui est officiellement un service public chargé de collecte de données géographiques, la volonté de marchandiser ces données cartographiques. L'IGN est assez ambigu parce que à la fois il est chargé d'une mission de service public qui doit normalement diffuser ces données, en tout cas certaines de ces données, et en même temps cet organisme public est un éditeur de cartes un petit peu comme les autres, c'est-à-dire qu'il vend ses données géographiques. Il pratique tout un système de licences selon qu'on utilise les cartes sur une ou plusieurs machines, selon qu'on les utilise pour une application web, qu'on en fait un usage commercial, académique et tout. Et donc, l'IGN, c'est pas tellement l'organisme qui voudrait publier ses données, sachant qu'il y gagne aussi des sous. Mais bon, parmi les organismes publics, il y en a vraiment très très peu qui font commerce des données publiques qu'ils collectent. Ce qu'il y a aussi comme frein, c'est tout simplement l'inertie d'une grande organisation. En particulier, les organismes publics sont assez lourds, très hiérarchiques. Et pour qu'il y ait des vraies décisions assez tranchantes, comme l'ouverture de données publiques, qui n'est pas une mince affaire, il faut quand même qu'il y ait pas mal de réunions, que tout le monde se concerte, qu'on passe par toute une hiérarchie avant de faire quelque chose d'aussi radical d'ouvrir ses données publiques. Lorsqu'un organisme public décide d'ouvrir ses données, il est en particulier important que ces données soient dans un format ouvert pour que chacun puisse les exploiter sans contrainte de passer par tel ou tel logiciel qui serait le seul à ouvrir les données de tel format. Maintenant, je propose qu'on parle de quelques collectivités territoriales qui ont décidé d'ouvrir leurs données. À mon avis, le pionnier en France, c'est Rennes Métropole, la communauté d'agglomération de Rennes, qui a ouvert sur son site officiel data.rennesmétropole.fr tout un ensemble de données. Il y a avant tout des données sur la géographie, d'abord des plans de ville, ensuite toute une base de données avec les adresses, c'est-à-dire pour chaque rue où sont les différentes maisons avec leur numérotation et leur emplacement, également une orthophoto, c'est-à-dire des images aériennes en haute définition qui permettent par exemple aux gens d'openstreetmap.org la carte libre collaborative de dessiner la voirie assez précisément parce que les orthophotos sont de bonne qualité. On a également des données sur les bennes à déchets, sur les terrains d'accueil des gens du voyage, sur les massifs d'espaces verts dans les jardins publics de Rennes. Bon, ça peut ne pas intéresser tout le monde, mais en tout cas c'est un pas assez intéressant par rapport à la transparence des pouvoirs publics et aussi par rapport à des applications assez innovantes qu'on peut créer à partir de ces données. Justement à Rennes, le réseau de transport public comprend une ligne de métro et un certain nombre de lignes de bus, et ainsi que des bornes de location de vélos, un petit peu comme le Vélib, mais qui s'appelle Vélostar à Rennes, parce que le réseau de transport rennais s'appelle Star. Et justement, ce réseau est géré par Keolis, tout comme le réseau Fil Bleu à Tours. Et en partenariat avec Keolis, la métropole de Rennes a décidé d'ouvrir également les données sur son réseau de transport en commun. Donc, on peut consulter toutes les données sur le réseau de transport en commun, à la fois les tracés des différentes lignes de métro et de bus. On dispose également des horaires des différentes lignes, de leur date de passage, ainsi de suite. On a également à disposition les emplacements des bornes de vélo en libre-service. Et également, cette communauté d'agglomération permet de consulter en temps réel, en faisant appel à un web service, la disponibilité des bornes de vélo. C'est-à-dire qu'on peut savoir à tel ou tel moment que sur telle borne, il y a tant de places disponibles et tant de vélos disponibles. Ça, certes, c'est intéressant. Tout le monde ne va pas s'amuser à analyser toutes ces données, parce que tout le monde n'est pas informaticien. Mais par contre, il y a un certain nombre de gens qui savent développer des logiciels et qui se sont mis à développer des applications à partir des données de Rennes Métropole. Et justement, Rennes Métropole, à l'occasion de son ouverture de données, organiser tout un concours d'applications innovantes autour des données récemment libérées. Toutes ces applications étaient assez diverses. Pour les plus basiques, c'était utiliser un fond de carte Google pour afficher les arrêts de bus et les bornes de location de vélo, en affichant également leur disponibilité, pas bien compliqué. Et tout ça, ça allait jusqu'à des vraies applications de calcul d'itinéraire multimodal, où vous pouvez à la fois prendre le vélo, prendre les transports en commun, marcher à pied. Vraiment des choses assez poussées, assez intéressantes. Alors qu'auparavant, par rapport aux données sur les transports en commun rennaises, elles n'étaient possédées que par Keolis, qui avait le site officiel du réseau Star, qui était le seul où vous pouviez utiliser vraiment ces données et calculer vos itinéraires en transport en commun à Rennes. Donc, ce qui est positif, c'est qu'il y a plein de gens qui peuvent utiliser ces données. Vous avez la possibilité d'utiliser plein d'applications différentes. Vous prenez celle qui vous plaît pour finalement calculer votre itinéraire ou visualiser le réseau ou consulter la disponibilité des bornes de vélo en libre service. Ensuite, il y a aussi la ville de Paris qui avait annoncé également qu'elle allait libérer ses données publiques. Sur le site opendata.paris.fr, on peut donc consulter pas mal d'informations. Par exemple, les statistiques de prêts dans les bibliothèques municipales, les listes de bureaux de vote, les listes d'établissements scolaires, et également pas mal de données géographiques assez précises. D'ailleurs, c'est assez incroyable tout ce que la ville de Paris stocke comme données géographiques. Par exemple, elle a la liste complète de tous les murs dans Paris, elle a le tracé précis de tous les bâtiments, le relief, elle dispose de la liste de tous les arbres dans ses jardins publics, elle a la liste des parcs et jardins, et la ville de Paris a pris un petit peu la même direction, sauf que bon, elle n'a pas créé comme Rennes un concours pour récompenser des applications qui permettraient d'utiliser toutes ces données. On voit peut-être pas trop quoi faire de la liste des arbres de Paris, mais en tout cas j'ai vu quelque chose d'assez intéressant. C'est une petite entreprise, je crois Montpellier-Rennes, qui a fait une petite application sur le web pour visionner justement toutes les données géographiques libérées par la ville de Paris dans une carte. Donc on voit une carte extrêmement détaillée, voire beaucoup trop détaillée, avec plein d'informations en plus de ce qu'on peut trouver dans une carte normale. Et donc je vous donnerai le lien vers cette visualisation dans notre blog à l'adresse www.velcs.info. Pour finir, on va parler d'un projet cool, avec un petit point d'interrogation, de nos amis de chez Google. Parce que ceux-ci ont fait un partenariat avec pas mal de musées de par le monde pour pouvoir montrer sur le web, faire une visite virtuelle de leur collection. C'est-à-dire que les lieux sont plus ou moins modélisé en 3D, vous pouvez y naviguer, vous pouvez également visualiser les œuvres. Elles ont été photographiées avec une précision assez incroyable, allant jusqu'à quelques milliards de pixels pour un tableau qui finalement ne fait que quelques mètres carrés. On peut se dire c'est très positif, c'est encore un truc cool de Google. Qui nous fait plein de services très sympathiques et très gratuits. C'est vrai. Google se présente comme quelqu'un de très sympa, très philanthropique, qui est ami avec tout le monde. Mais finalement, là où est la déception, c'est que toutes ces œuvres sont anciennes, elles sont dans le domaine public. Et ce qui est amusant, c'est que sur ces œuvres-là, pourtant, on nous indique un copyright tout droit réservé. Vous avez juste le droit de regarder les œuvres dans le service Google Art Project pour visualiser seulement toutes ces œuvres, mais toute réutilisation est interdite. Pourtant, l'œuvre est dans le domaine public. puisque les musées se disent qu'ils possèdent physiquement le tableau, le support physique de l'œuvre, eh bien, l'œuvre leur appartient, même si l'idée, même si l'image, même si le travail de l'auteur est ancien, et donc appartient à tout le monde. Je me dis, il y a une certaine contradiction. Est-ce que les musées ne devraient pas, pour la diffusion du savoir, la diffusion de la culture, bref, leur mission, ouvrir aussi les photographies de leurs œuvres dont les droits d'auteur n'existent plus, soit parce que ces œuvres datent d'une époque où il n'y avait pas de droit d'auteur, soit parce que le droit d'auteur, s'il existait, est expiré depuis bien longtemps. Pour finir, vive la culture libre, vive le domaine public, vive la libre réutilisation du savoir, et merci de votre écoute.